7h30, le journal Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marina et bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec à la une l'acte 7 des Gilets jaunes, ce 7e samedi consécutif de mobilisation avec des cortèges plus clairsemés, mais quelques points de blocage ici ou là. Nous irons à Calais où l'autoroute A16 a été fermée ce matin et puis sur les Champs-Élysées où les Gilets jaunes sont quelques dizaines rassemblés en ce moment. L'autre grand titre de l'actualité ce samedi, c'est l'affaire Benalla qui n'en finit plus d'empoisonner l'Élysée. Le parquet de Paris ouvre une enquête, notamment pour abus de confiance. C'est l'information de cette matinée après les questions sur les passeports diplomatiques que l'ancien collaborateur du président a conservé. Tous les détails et les derniers développements dans un instant. Et puis, ce week-end chargé sur les routes des sports d'hiver. Ce samedi est classé orange par Bison Futé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous verrons que les stations de ski se réjouissent de leurs excellents taux de remplissage en cette fin d'année. Aux États-Unis, Donald Trump fait durer le bras de fer avec les démocrates. Il veut 5 milliards de dollars pour financer son mur à la frontière mexicaine. Il menace désormais de fermer la frontière. Nous irons à Washington. Nous reviendrons aussi sur ces incidents racistes qui ont à nouveau frappé le championnat de football italien. Des cris de singe lors du match Inter de Milan-Naples cette semaine et un supporter qui meurt dans une bagarre. On en parle avec notre invité, le journaliste Marc Sauvourel, qui est l'auteur d'un documentaire sur le racisme dans le foot. Et puis, que retiendrons-nous de 2018 ? Comment les livres d'histoire en parleront ? Tout à l'heure, c'est notre historien maison, Fabrice D'Almeida, qui nous éclaire. Bienvenue. Europe 1. Ils sont moins nombreux, mais leurs actions continuent bien. Chaque samedi, pas de trêve des confiseurs pour les plus déterminés des Gilets jaunes, avec des actions prévues aujourd'hui un peu partout en France. 7e samedi d'affilée. La semaine dernière, ils étaient 38 000 manifestants. Difficile d'estimer à ce stade la mobilisation aujourd'hui, mais ici ou là, il y a bien quelques blocages. Nous allons tout de suite à Calais, qui est toujours l'un des points chauds dans les Hauts-de-France. Kevin Tullier, vous êtes sur place et des Gilets jaunes ont bloqué ce matin l'autoroute A16.
Oui, Sébastien, l'autoroute A16 réouverte depuis quelques minutes, le temps de débarrasser la chaussée. Les 150 gilets jaunes ont quitté les lieux après avoir bloqué plus d'une heure au niveau de Saint-Folquin, un axe qui relie Calais à Dunkerque. Un blocage sans incident, mais on sent une certaine tension, notamment avec les forces de l'ordre. 13 quarts de CRS sont présents sur les lieux, mais pas de quoi effrayer Valérie, présente depuis le début du mouvement.
Bien montrer qu'on est là, bien montrer qu'on lâche rien. Comme Macron n'a rien lâché, nous on lâche rien. Faut pas croire que le mouvement des Gilets jaunes est terminé, c'est faux, c'est totalement faux. Les gens sont toujours autant dans la misère. Certains, s'ils n'ont pas passé Noël chez eux, s'ils n'ont pas eu possibilité de donner des cadeaux à leurs enfants, il y a quand même un problème. On ne demande pas la lune, on ne demande pas des vacances sur la Côte d'Azur. On demande surtout un vrai pouvoir d'achat avec des vraies conditions de vie, de quoi vivre, de quoi se chauffer, de quoi se vêtir. Toutes ces choses-là, on n'a pas.
Les Gilets jaunes ont regagné leur voiture pour probablement rejoindre un nouveau point de blocage et dans le même temps, une marche pacifiste a lieu dans le centre-ville de Calais. 75 personnes avec des banderoles. Retour de l'ISF, stop aux taxes, une opération séduction pour l'organisateur. Il veut faire revenir les Gilets jaunes qui ont quitté le mouvement après les violences à Calais début décembre.
Kevin Tullier à Calais pour Europe 1. À Marseille, ce matin, ils étaient environ un millier dans le centre-ville, dans le calme. Des rassemblements sont aussi prévus à Bordeaux et à Toulouse. À Amiens, la préfecture a interdit toute manifestation et une dizaine d'interpellations ont eu lieu. Peu, en revanche, semble avoir fait le déplacement vers Paris. Jean Jéquéry, vous avez parcouru la capitale ce matin. C'est globalement assez calme.
Oui, Sébastien, je me trouve en haut des Champs-Élysées et en tout et pour tout, je n'ai croisé qu'une cinquantaine de gilets jaunes. Difficile en plus de les compter car plusieurs groupes sont disséminés tout le long de l'avenue. Parmi eux, Denis, venu de Seine-et-Marne.
Même si on n'est qu'une poignée, aujourd'hui on est toujours là. On espère que le mouvement va reprendre flamme début janvier. Ça fait 7 semaines qu'on est dans la rue et j'espère tout simplement que les gens ils n'auront pas passé autant de temps dans la rue pour que ça s'arrête. Parce que ce qu'il a dit Macron début décembre, je pense que ça a plu à personne. Et puis on attend quand même un petit geste du gouvernement parce que... En fait, on voit rien arriver.
Les Champs-Élysées ne sont pas fermés à la circulation et même si les manifestants ont tenté de la bloquer, ça n'a pas duré plus de 2 minutes car l'important dispositif de sécurité déployé a réagi très vite. Il y a beaucoup de camions de police, beaucoup de camions de CRS également. Résultat, tout est normal ici, ce qui réjouit les commerçants comme Pascal, directeur d'un restaurant.
C'est un soulagement. Pour nous, c'est un samedi comme les autres. On a même un groupe de réservé de 30 personnes. On est ouvert sans restriction. On a beaucoup plus souffert effectivement les week-ends précédents, les samedis. J'espère que 2019 sera un petit peu plus facile à gérer au niveau des établissements qui sont sur les Champs-Élysées.
Ces derniers week-ends, les Gilets jaunes avaient rejoint les Champs-Élysées plus tard dans la journée. Impossible encore donc de dire précisément ce qu'il va se passer cet après-midi. Et si effectivement la discrétion affichée sur les réseaux sociaux ces derniers jours va se traduire ou non par une plus faible mobilisation dans les rues de Paris.
Jean-Jacques Herry sur les Champs-Élysées pour Europe 1. Les Champs-Élysées où les festivités du Nouvel An seront bien maintenues lundi soir. Le spectacle Son et Lumière sur l'Arc de Triomphe aura lieu malgré les appels à la mobilisation des Gilets jaunes, mais avec un dispositif de sécurité renforcé, périmètre, point de filtrage et contrôle dans les transports en commun. Par ailleurs, après les violents affrontements dans les manifestations de ces dernières semaines, le ministère de l'Intérieur annonce que l'inspection générale de la police nationale, la police des polices, enquête sur 48 affaires de violences policières présumées.
Midi 35, à la suite de votre journal de la mi-journée, Sébastien Krebs.
On en vient maintenant au dernier développement de l'affaire Benalla. C'est l'information de cette matinée, le parquet ouvre une enquête préliminaire, notamment pour abus de confiance suite aux interrogations sur l'utilisation des passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla, qu'il utilisait potentiellement pour des missions privées en Afrique depuis son licenciement de l'Élysée. Alors pourquoi a-t-il conservé ses passeports? Depuis quand le palais était-il au courant? Bonjour Adrien Beck.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1, ça fait beaucoup de questions et c'est désormais parole contre parole.
Oui, d'un côté, Alexandre Benalla qui affirme avoir laissé ses passeports à l'Élysée après son départ début juillet. C'est ce qu'il avait dit devant le Sénat mi-septembre. Il assure que ces deux passeports lui auraient été restitués par la présidence début octobre. Ce serait évidemment très troublant, d'où cette contre-attaque de l'entourage d'Emmanuel Macron. Selon nos informations, un inventaire des effets personnels d'Alexandre Benalla a été mené après la perquisition dans son ancien bureau le 23 juillet. Aucun passeport n'a été retrouvé, nous assure-t-on. Depuis, ses effets personnels auraient été stockés dans un carton fermé, carton qu'Alexandre Benalla ne serait jamais venu chercher.
Alors, autre question, Adrien, elle porte sur ces nouvelles activités d'Alexandre Benalla, ces fameuses missions en Afrique. Sur ce point, il a répondu et directement à l'Élysée.
Oui, l'Élysée qui s'interrogeait publiquement sur ses activités professionnelles actuelles, sur un possible mélange des genres lorsqu'il était en poste auprès d'Emmanuel Macron. Eh bien, dans un courrier adressé au directeur de cabinet du chef de l'État, consulté par nos confrères du JDD, Alexandre Benalla assure n'avoir jamais effectué de missions personnelles et privées quand il collaborait à l'Élysée. Avant d'ajouter, je ne me suis jamais prévalu d'une quelconque recommandation ou appui de la présidence de la République dans mes nouvelles activités, ni avant ni maintenant. Donc, pour l'heure, l'Élysée dit ne pas savoir si ce courrier a été reçu.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps, on apprend que le président est assez loin de cette affaire Benalla, est assez loin des Gilets jaunes également, puisqu'il est en vacances à Saint-Tropez. Emmanuel et Brigitte Macron ont été aperçus hier soir du côté de la place des Lys, où ils ont échangé avec des passants. La photo est révélée ce matin par le quotidien Var Matin. Direction la route des vacances, à présent, au moment où commence la deuxième semaine des congés scolaires. C'est une journée classée orange dans le sens des départs en région Auvergne-Rhône-Alpes, où l'on se presse sur la route des stations de sport d'hiver. Taux de remplissage exceptionnel pour cette semaine du Nouvel An. À la montagne, les professionnels ont le moral, la saison démarre très bien. Maud Descamps.
Dans les Alpes, on craint davantage les grosses chutes de neige que les gilets jaunes pour bloquer l'accès aux stations de ski. À l'Alpe d'Huez, par exemple, aucun blocage à l'horizon. Les touristes, en revanche, sont déjà très nombreux, comme l'a constaté Hervé Alib, président de l'association des commerçants de la station.
Depuis le début des vacances de Noël, et notamment avec les quelques belles journées qu'on a déjà eues, il y a un niveau de fréquentation supérieur aux années précédentes. En se promenant dans la station, on voit qu'il y a quand même beaucoup de véhicules et beaucoup de touristes qui se promènent la journée ou le soir.
Sur l'ensemble des vacances de fin d'année, les stations de ski françaises affichent un taux de remplissage de plus de 70%. Une fréquentation qui ira crescendo jusqu'à début janvier, détaille François Badjili des offices de tourisme de France.
On a démarré la semaine de Noël, donc il y a quelques jours, à 65% pour arriver à 85% sur la fin de semaine. Et on est à un peu plus de 95% sur la semaine prochaine, la semaine du jour de l'an. Savoir que la semaine du jour de l'an est la semaine la plus remplie de toute la saison.
Et selon l'Observatoire des associations nationales des maires de stations de montagne, la semaine du Nouvel An devrait afficher une progression de 14%. par rapport à l'an dernier.
Maud Descamps pour Europe 1. À l'étranger, la réplique de l'armée égyptienne après l'attentat qui a tué 3 touristes vietnamiens et leur guide hier près des pyramides de Gizeh. Des raids ont été menés dans cette région de Gizeh, mais aussi dans le nord Sinaï contre des combattants djihadistes qui, selon les autorités, préparaient une série d'attaques. Le ministère de l'Intérieur égyptien annonce que 40 terroristes ont été tués. Direction Washington où Donald Trump a l'air bien décidé à faire durer le bras de fer qu'il oppose aux démocrates. L'administration fédérale est toujours paralysé, fermé par le shutdown, faute d'accord sur le budget, et le président américain ne lâche pas. Il veut ses 5 milliards de dollars pour financer le mur à la frontière mexicaine. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Donald Trump menace maintenant de fermer la frontière mexicaine s'il n'obtient pas gain de cause.
Oui, Donald Trump, qui a dû annuler ses vacances en Floride, trépigne à la Maison Blanche. Selon des proches du président, il est rongé par ce shutdown, très frustré de ne pas obtenir le financement pour pouvoir construire son mur et donc satisfaire sa base électorale. Le président américain s'est lancé dans une salve de tweets hier, prévenant qu'il fermerait la frontière entre les États-Unis et le Mexique si les démocrates n'acceptaient pas de débloquer les 5 milliards de dollars qu'ils réclament. Il assure même qu'une telle fermeture serait rentable, car selon lui, les États-Unis perdent de toute façon de l'argent en faisant du commerce avec le Mexique. Alors en coulisses, les démocrates se frottent les mains. Pour eux, cet ultimatum montre le désespoir de Trump. Il devrait mettre fin à ce shutdown le 3 janvier lorsqu'ils seront de nouveau majoritaires à la Chambre des représentants. En attendant, des centaines de milliers de fonctionnaires passent les fêtes de fin d'année au chômage technique ou sont forcés de travailler sans être payés. Selon un récent sondage, 47% des Américains pense que Donald Trump est responsable de ce shutdown. Pour 33%, ce sont les démocrates.
Sonia Dridi à Washington pour Europe 1. Midi 41, sur Europe 1 à suivre, le football italien gangréné par le racisme. Nouveaux incidents cette semaine, des cris de singe, des insultes en tribune. Nous en parlons avec notre invité, le journaliste Marc Sauvourel. A tout de suite.
Midi 43, très bon samedi à l'écoute d'Europe 1, la suite de votre journal de la mi-journée avec vous, Sébastien Krebs.
Et nous revenons maintenant sur ces incidents racistes qui ont à nouveau frappé le football italien. C'était mercredi, stade San Siro à Milan, l'Inter recevait Naples. Et dans les tribunes, on a entendu des cris de singe, des insultes racistes envers le joueur franco-sénégalais Kalidou Koulibaly. Bonjour Marc Sauvourel.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes journaliste à Canal+. On en parle avec vous parce que vous êtes justement l'auteur d'un documentaire sur le racisme dans le foot qui sera diffusé dans quelques jours. Le constat, c'est que l'Italie a toujours un gros problème avec ça.
Oui, c'est vrai que c'est un problème récurrent, le problème du racisme dans les stades en Italie, ne serait-ce que sur l'année 2018, il y a eu une petite dizaine d'incidents rapportés qui concernaient d'ailleurs déjà le Kalidou Koulibaly, hein, qui vient d'être victime de ça. Lui, en janvier dernier, déjà lors d'un déplacement avec son club à Bergame, avait été l'objet de cris de singe. Et nous, on est d'ailleurs parti pour notre documentaire qu'on réalise avec Olivier Dacour, un ancien joueur qui a joué en Italie lui aussi pendant 6 ans, on est parti d'un fait de racisme déjà en Italie. Il concernait le joueur français Blaise Matuidi, qui joue à la Juventus de Turin et qui, lors d'un déplacement à Cagliari, avait été l'objet de chants racistes.
C'est le racisme, c'est aussi la violence. Hein. Ce même jour, en marge de ce même match, un supporter est mort dans une bagarre à l'extérieur du stade, mercredi également. Pourquoi l'Italie n'a pas réussi à régler ce problème? Il y a plus d'indulgence, les peines sont plus faibles?
En fait, il faut regarder du côté du pouvoir des arbitres. Quel est le règlement? Que dit-il? Et comment les arbitres peuvent agir lorsqu'il y a déjà ne serait-ce qu'un phénomène de racisme dans les stades ou même un phénomène de violence globalement? En fait, les arbitres, eux, obéissent à un article qui est l'article 11, puisque dans le cadre de notre documentaire, on a rencontré un arbitre italien parce qu'on a voulu comprendre aussi pourquoi l'Italie était gangrénée et n'arrivait pas à faire face à ces problèmes. Et cet arbitre, qui aujourd'hui est à la retraite, nous a expliqué qu'en fait, selon cet article 11, lorsqu'il y a un problème dans un stade, un problème de racisme par exemple, mais qu'il est le fait d'une minorité, c'est-à-dire que l'ensemble du stade se dissocie de l'acte raciste par exemple, eh bien c'est comme si l'incident n'existait pas. Ça annule l'incident. Et donc à partir de là, à partir du moment où cette loi du jeu permet aux arbitres de faire la sourde oreille, eh bien derrière on a ce qui s'est produit avec Koulibaly. C'est-à-dire que, par exemple, on a une annonce faite dans les haut-parleurs du stade pour demander aux chants de cesser. Mais à partir du moment où l'ensemble du stade ne suit pas, eh bien l'arbitre a tout loisir de laisser la partie continuer. Et pour ce qui est du cas de Blaise Matuidi, dont je vous parlais il y a quelques instants, l'arbitre n'avait même pas écrit dans son rapport que le joueur avait fait l'objet de faits racistes. Donc tant que ce sera la politique un peu de l'autruche par rapport à ça...
Et que le match peut se poursuivre sans, comme si de rien n'était. C'est différent, les règles sont différentes là-dessus en France, parce qu'on a, connu ça en France, les bananes, les cris de singe, on a l'impression que ça a disparu. Est-ce qu'on a réussi à le régler en France ?
La règle n'est pas différente en France. C'est-à-dire qu'en Italie comme en France, il y a la possibilité pour celui qui dirige le jeu, donc l'arbitre, d'arrêter le match. En France, ce n'est pas l'article 11 qui régit tout ça, c'est la loi 5 des lois du jeu. En France, par exemple, s'il y avait un phénomène de racisme dans le stade, l'arbitre d'abord demanderait à ce que le délégué du match passe une annonce, comme ça a été le cas d'ailleurs à Naples, il y a eu une annonce de la part dans les haut-parleurs. Ça serait la première étape. La deuxième étape, l'arbitre reconduirait les joueurs au vestiaire et une décision serait prise quant à la poursuite de ce match-là ou non. Et puis la troisième étape, ce serait l'arrêt définitif du match. Donc on est peut-être plus sévère en France qu'en Italie, parce qu'en Italie, effectivement, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, l'article 11, qui permet aux arbitres de ne pas tenir compte du fait de racisme, mais le fait d'une minorité. Maintenant, il ne faut pas non plus penser qu'en France...
Est-ce qu'on en est débarrassé en France ? D'un mot, est-ce qu'on a réussi à s'en débarrasser en France ou est-ce que ça existe encore ?
Alors, on a moins de manifestations récurrentes de cris de singe comme on peut l'avoir en Italie. Mais par exemple, cette année, Lyon a été condamné parce que des supporters ont exhibé un drapeau nazi en tribune lors d'un match de Coupe d'Europe. Lyon a pris un match de suspension par rapport à ça. Et puis, on a aussi... On a aussi eu, par exemple, dans le football amateur à Strasbourg, enfin dans la région de Strasbourg, en mai dernier, des incidents liés au racisme. Quoi. Donc en France, il y a quand même, faut pas non plus, considérer.
Pas trop enjolivé, même si on n'en est plus au stade que l'Italie connaît encore aujourd'hui dans ces stades. Merci beaucoup Marc Sauvourel, on suivra votre enquête détaillée sur Canal+, votre documentaire intitulé « Je ne suis pas un singe » dont vous êtes l'auteur avec l'ancien joueur Olivier Dacour et qui sera donc diffusé le dimanche 6 janvier à 21h. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Vous restez avec nous sur Europe 1.
Midi 51, le journal Sébastien Krebs.
Et on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur à présent. Que retiendrons-nous de l'année 2018 qui se termine ? Comment sera-t-elle enseignée dans les futurs livres d'histoire ? Ce matin, notre historien maison Fabrice Dalméda était dans la matinale de Bernard Poirette pour essayer de restituer tout ça. Et il y a un événement qu'il qualifie d'historique. Ça commence par une poignée de main et une image.
On imagine bien l'image dans le manuel scolaire. Vous savez, la photo de Trump avec Kim Jong-un, rappelez-vous.
Le grand blond et le petit brun.
Exactement, à Singapour. Et on pourrait même imaginer, si on se projette dans un lointain avenir, qu'il y aura à cette époque-là une Corée réunifiée, la fin de la Corée du Nord, de la Corée du Sud et peut-être
la capitale Pyongyang ou Séoul.
C'est toute la difficulté. Et peut-être qu'à ce moment-là, précisément, les historiens diront que c'était ce jour-là que tout avait changé, même s'il y a eu un autre événement, toujours avec Trump, qui est très important dans la durée, qui est la dénonciation de l'accord qu'on avait sur le nucléaire iranien. Et ça, peut-être que ce sera l'instabilité qui gagnera à côté de la carte stable de la péninsule coréenne.
Fabrice Dalméda, cette année qui se termine a aussi été marquée en France par de très grands moments d'émotion collective. Il faut choisir, mais par exemple, en tête, vous mettez quoi ?
Ah, moi, j'ai quand même en souvenir l'acte héroïque du colonel Beltram, vous vous souvenez. Et on a eu ensuite ce moment, je crois, qui a été un vrai moment de communion nationale, quand il y a eu cette cérémonie aux Invalides. Son cercueil était parti du Panthéon, et donc on pourrait imaginer que les élèves des lycées, plus tard, apprendront l'héroïsme à travers cette figure d'un homme qui n'a pas hésité à prendre la place d'un otage pour essayer de désarmer ce preneur d'otage et qui est mort dans cette tentative héroïquement.
Alors justement, on reste dans le même périmètre géographique à propos du Panthéon. Il s'est passé quelque chose de très important le 1er juillet.
Ah oui, l'entrée de Simone Veil au Panthéon. J'ai un souvenir très ému pour ça, parce qu'à la fois, Simone Veil, c'est à Auschwitz, c'est la loi sur l'avortement, donc c'est une grande femme politique, et en même temps, c'est cette femme qui fait rentrer son mari au Panthéon. Oui. C'est la première fois que ça se déroule dans ce sens-là, donc c'est un événement à la fois intéressant en termes de société, et puis en termes historiques, bien sûr.
Beltram, Veil, troisième disparition qui vous semble notable pour cette année 2018, Fabrice Dalméda, Charles Aznavour.
Alors là, je me suis projeté vraiment dans la peau du professeur de français, quelque part au milieu du 21e siècle, qui se dira, tiens, aujourd'hui, je vais essayer de trouver un exercice un peu original pour mes étudiants. Je vais leur prendre une chanson de Charles Aznavour et puis je vais essayer de leur faire apprendre un petit peu comme aujourd'hui, il y en a qui apprennent des chansons de Prévert. Eh bien, on aura sûrement, je pense, cette idée-là de Charles Aznavour qui a écrit aussi pour des gens comme Johnny qui était mort un petit peu avant,
absolument,
en 2017,
avant,
au mois de décembre.
Fabrice d'Almeida, bon, il y a une chose bien sûr à laquelle on ne peut pas échapper en 2018, surtout que ça déborde sur 2019, c'est l'affaire des Gilets jaunes. Comment cette affaire sociale, ce grand maelstrom social sera-t-il enseigné? Qu'est-ce qu'on en gardera?
Sûrement cette image de violence et de colère, mais moi je me disais qu'un enseignant dans l'avenir, il pourrait enseigner ça avec une courbe. À la fois la courbe, bah oui, la courbe de mobilisation, vous voyez, première semaine 300 000, deuxième semaine 200 000, troisième semaine, etc. Et puis de l'autre côté, il mettrait peut-être ça en regard avec les incidents pour montrer peut-être à ses étudiants que plus on dure dans le mouvement, plus ceux qui restent sont radicaux. Donc peut-être qu'il y aurait ce contraste-là qui serait montré. Et puis, on va avoir toutes ces voitures automatiques, on va avoir toute cette société automatisée qu'on nous promet, je ne sais pas si elle va arriver, mais si elle advient vraiment... Est-ce qu'on aura encore des gilets jaunes? Donc je me suis dit que peut-être un jour on enseignerait le gilet jaune comme on enseigne aujourd'hui l'armure du Moyen-Âge. C'est cette espèce de protection que les gens avaient et qui devait aider à mieux les repérer la nuit ou quand ils font du vélo ou quand ils sont sur un lieu dangereux puisque cette couleur jaune fluo avait été essentiellement faite pour sauver des vies industrielles.
Fabrice d'Almeida, tout de même, l'Arc de Triomphe, c'est là qu'il y a eu la commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Y aura-t-il des commémorations de ça encore demain?
Moi, je pense que l'Arc de Triomphe est devenu l'Arche de la Patrie. C'est l'endroit où il y a tous nos triomphes. Rappelez-vous-en un, cet été, la victoire de l'équipe de France
bien
de football.
Sûr, bien sûr. Puis
cette marche triomphale avec les Champs-Élysées. Et ça nous rappelle en écho, en 1998, le visage des footballeurs de l'équipe de France projeté sur l'Arc de Triomphe. Et vous voyez qu'on rejoint encore, on rejoint encore cette histoire très, très lointaine qui avait commencé quelque part en 1806 quand ce magnifique bâtiment a été voulu par Napoléon Ier.
L'historien d'Europe 1, Fabrice d'Almeida, qui était avec Bernard Poirette ce matin dans la matinale. Eh bien, il nous reste à présent à voir le temps de ce samedi. Valérie Darmon, cet après-midi, le ciel va rester contrasté entre le nord et le sud.
Absolument, Sébastien. Placé sous la protection du même anticyclone que depuis le début de la semaine, la situation météo est figée. Les nuages bas qui sont arrivés entre jeudi et vendredi sur la moitié nord sont toujours bel et bien là, entre Charente et Lorraine, en passant par la région parisienne. Un îlot ensoleillé résiste bien et persiste au beau temps sur l'Alsace, beau temps que l'on retrouve aussi sur tous les reliefs et tout le sud, sauf des Landes aux Pyrénées, toujours en proie au brouillard. Les températures, sans surprise, sont de saison, avec au cœur de notre samedi des valeurs entre 1 à Lons-le-Saunier et 16 à Toulon, 5 annoncés par exemple à Metz et Clermont-Ferrand, 6 à Limoges, 7 à Amiens et au Mans, 8 degrés à Paris et Lorient, 9 à Toulouse, 11 degrés à Cherbourg et 13 degrés à Manosque. Et demain, zéro changement, sauf peut-être davantage de soleil tout de même sur la moitié sud.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Sébastien Krebs, on vous retrouve dans quelques instants pour l'essentiel de l'actualité suivi de Tout Terrain avec Fabienne Lemoyle. L'essentiel de l'actu, Sébastien Krebs.
Et Alexandre Benalla visé par une nouvelle enquête, enquête ouverte ce matin par le parquet de Paris, notamment pour abus de confiance. L'ancien collaborateur de l'Élysée accusé de ne pas avoir restitué ses anciens passeports diplomatiques. L'acte 7 des Gilets jaunes et des cortèges plus clairsemés ce samedi. Un millier de personnes ont défilé à Marseille, à Calais. L'autoroute A16 a été bloquée ce matin et sur les Champs-Élysées à Paris, il ne sont que quelques dizaines à affluer dans le calme. Week-end chargé sur les routes des sports d'hiver. Samedi classé orange par Bison Futé en Auvergne-Rhône-Alpes, ça bouchonne sur l'autoroute A43 en ce moment en direction de Chambéry et aux abords d'Albertville. À l'étranger, la réplique de l'armée égyptienne après l'attentat qui a tué 3 touristes vietnamiens et leur guide hier près des pyramides de Gizeh. Des raids ont été menés. Les autorités affirment avoir tué 40 terroristes. Et puis la météo de ce samedi, des nuages qui persistent sur quasiment toute la moitié nord, sauf en Alsace où le soleil se maintient comme sur les reliefs, et sur toute la moitié sud, sauf des Landes jusqu'aux Pyrénées.
Merci beaucoup Sébastien. Très bon samedi à l'écoute d'Europe 1. Il est 13h.